film which you are about to see became a nightmare.
C'est bestial ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de serial killer, du Texas, de freaks, d'ours et même de Scooby-Doo. Horreur et épouvante avec Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, film culte des années 70, une métaphore d'une société américaine en crise politique et économique. Benoît Lagan.
Oui, l'occasion de revenir entre autres sur un tournage mouvementé où comment Tobe Hooper, il y a 40 ans, rejouait et renversait en pleine campagne texane le motif hitchcockien de Psycho.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine avec Jean-Christophe Spadaccini qui est maquilleur, effets spéciaux. À nos côtés, plateau fable pour 19h35 avec Judge Charmant qui signe La peau de l'ours, un roman dont le narrateur est un monstre, mi-ours, mi-humain, ou la triste et lamentable histoire d'un freak mélancolique. Manu Farine.
Ou comment, en entrant dans la peau de l'ours, s'en tenir littéralement au programme de Joyce Ormond, travailler un milieu radicalement étranger au sien.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le tout nouveau journal de la culture de Zoé Spez.
Et voilà ce que vient de dire Riccardo Muti. Je suis peiné par ce qui se passe actuellement dans la culture en Italie. Si on continue à assassiner la culture sur laquelle notre histoire est fondée, notre patrie sera vraiment bella e perduta, belle et perdue, comme le chante le chœur dans Va Pensiero.
Bonsoir Zoé.
Alors, c'est
Attendez, j'ai dit juste bonsoir Zoé, j'attendais un bonsoir Laurent, quelque chose
bonsoir
d'aimable en ce début de semaine. Très bien. C'est donc votre son du jour, mais il n'est pas tout frais.
Non, il n'est pas tout frais, il a 3 ans. Ce que vous entendez là, c'était le 12 mars 2011. Riccardo Muti, chef d'orchestre, directeur musical de l'Opéra de Rome, dirigeait Nabucco, opéra de Verdi célébrissime en Italie. Et il interrompt le spectacle pour s'insurger contre la situation de la culture et de l'opéra dans son pays, et en filigrane contre celle de l'Opéra de Rome, dont il est à l'époque directeur musical et chef honoraire à vie. Et voilà, coup de théâtre aujourd'hui, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs chefs du monde a démissionné de ses fonctions alors qu'il devait diriger encore 3 productions très attendues en 2015, arguant qu'il n'a plus la sérénité nécessaire pour le faire. Je rappelle que l'Opéra de Rome est menacé de faillite par une dette de presque 30 millions d'euros, qu'il a connu 3 grèves cet été et un plan de sauvetage qui n'est toujours pas mis en œuvre.
On passe maintenant au dossier du jour, c'est le Festival d'art contemporain de Toulouse, anciennement printemps de septembre, qui va de nouveau changer de format et non sans remous. Le conseil d'administration a décidé mercredi de supprimer ce qui devait être la 3e édition de mai 2015 pour devenir finalement une biennale et il doit l'annoncer ce soir par communiqué. Décision qui a ouvert bien sûr un conflit entre la présidente, Marie-Thérèse Perrin, et le directeur artistique, Jean-Marc Bustamante, qui a été remercié.
Et oui, et ce alors qu'il avait été chargé en 2013 de trouver justement une nouvelle formule à l'époque pour ce festival d'art contemporain qui n'a pas cessé d'évoluer depuis sa création et qu'il s'était engagé pour 3 ans. Il a pris cette décision la semaine dernière alors qu'il rentrait tout juste de vacances. L'une des raisons avancées par le conseil d'administration, c'est que la mairie de Toulouse va diminuer ses subventions de 5 à 10%, raison qui ne suffit pas à expliquer ce changement total de cap pour Jean-Marc Bustamante.
Moi, je n'ai pas compris d'une part qu'une baisse de 5 ou de 10% vienne tout d'un coup tout stopper, tout arrêter en plein élan, parce que là, on est en plein élan de la prochaine édition, dans la mesure où en plus on a eu un grand succès cette année, le public est revenu, 115 000 personnes, des très bons articles, etc. Et on allait maintenant sur des projets encore plus ambitieux. Donc là, j'ai énormément de soutien sur le fait que d'arrêter les choses en plein vol comme ça, c'est inélégant, c'est un peu désinvolte. D'autant plus que j'ai été averti, moi, le lendemain par la présidente qui m'a simplement laissé un message sur mon répondeur pour me dire qu'ils allaient certainement passer en biennale et qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Voilà, donc je trouve la manière aussi assez difficile.
Au-delà de Jean-Marc Bustamante, c'est aussi le choc pour les artistes qui étaient programmés pour cette édition de mai 2015.
Oui, parmi les œuvres phares de cette édition, il y avait une grande exposition Franz West, vue par le metteur en scène français Luc Bondy. C'est l'artiste autrichienne Marina Faust, qui était très proche des deux hommes, qui a été chargée de coordonner ce projet, projet qui lui a demandé beaucoup de préparation.
J'ai travaillé sur cette exposition depuis avril. J'ai eu aussi énormément de gens qui se sont engagés, que j'ai contactés moi, des historiens d'art, des galeries, des artistes. Luc Bondy, que j'ai engagé, qui est un homme très occupé, mais quand même, on a travaillé, on a eu des réunions, on a fait des voyages, enfin, c'est énorme. Enfin, pour moi, C'est extrêmement embarrassant aussi, parce que je me suis engagée à fond. Les abattoirs, c'est un musée énorme, et on m'a mis sous pression d'avancer vite, et j'ai même pas encore eu des nouvelles directes de leur part d'ailleurs. Si j'avais pas su de Jean-Marc, j'aurais continué à travailler là. Je trouve ça pas très engagé, très professionnel, tout ça, je comprends rien.
Mais le conseil d'administration, lui, défend sa décision.
Régis Durand fait partie de ce conseil d'administration. Il est aussi, je le rappelle, l'un des cofondateurs de ce festival, à l'époque où il s'appelait le Printemps de Cahors. Il comprend la déception de Jean-Marc Bustamante, mais il indique que cette édition 2015 n'était toujours pas vraiment au point et que de toute façon, le modèle tel qu'il existait n'était plus pertinent.
Ce que je sais, c'est que le projet Luc Bondy n'était pas bouclé. Et quand on arrive au mois de septembre et qu'on ne sait pas où on va avec quelqu'un qui est aussi occupé que Luc Bondy, c'était un projet qui a certainement nécessité du travail, mais qui n'était pas bouclé. Si vous voulez, la formule telle qu'elle existait posait beaucoup de problèmes à cause du mode de fonctionnement. Les choses se décidaient trop tardivement, il fallait faire des acrobaties budgétaires. Il y a eu de très belles expositions, tout le monde en convient. Nous avons pensé qu'il fallait simplement que le festival se renouvelle, se régénère. Il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé, notamment en changeant de ville. Dans un passé plus proche, il a été amené aussi à se régénérer. Nous avons pensé que c'était le moment.
Voilà, Régis Durand. Alors la nouvelle formule doit être dévoilée dans les mois qui viennent, mais on sait déjà qu'il va s'agir donc d'une biennale, mais d'un genre un peu particulier, puisqu'il y aura bien un temps fort tous les deux ans, mais il y aura aussi une présence artistique pendant l'année dite intermédiaire, avec notamment des résidences d'artistes qui devraient permettre un travail de fond à faire, à suivre donc.
Et on poursuit tout de suite avec les brèves.
Et on ouvre avec le très gros succès des Journées du patrimoine ce week-end. Plus de 12 millions de visiteurs, comme les années précédentes, ont visité les quelques 7500 sites ouverts au public, avec évidemment un pic d'affluence record pour des lieux comme l'Élysée, la Prison de la Santé ou les Maisons des Rochers de Grofftal.
J'imagine qu'il n'y a aucun lien entre les trois exemples que vous avez
Absolument
choisis.
Absolument pas.
La francophonie lance un nouveau concours destiné aux enfants.
L'Association pour la valorisation de la francophonie lance donc un concours de récits en français destiné à tous les élèves de CM2 de tous les pays francophones dans le monde entier, avec à la clé un séjour tout frais payé à Paris pour les auteurs et leurs profs. Un jury sélectionnera la classe ou l'école lauréate mi-2015.
Première panne pour Netflix.
Et oui, le géant américain de la SVOD a connu un gros problème de fonctionnement dans plusieurs pays comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France, où il est disponible depuis à peine une semaine. Panne qui a duré une grosse demi-heure à un moment assez crucial quand on est Netflix, puisque c'était dimanche soir, entre 22h30 et 23h.
Peut-être une question pour Toby Hooper, réalisateur. Qu'est-ce que vous pensez de Netflix ? Qu'est-ce que vous en attendez ?
What do you think of Netflix in general?
And can I not do? This is inappropriate for me.
C'est inapproprié pour lui d'en parler. Je crois que j'ai bien compris. Voilà. Donc on va passer.
Toby Hooper est apparemment gêné. Il ne souhaite pas répondre.
D'accord, très bien. On le cuisinera tout à l'heure. On y reviendra. Et la dernière.
Alors la dernière, c'est l'histoire d'un programme télévisé assez osé, comme seuls les médias américains savent les faire. La chaîne Discovery Channel prépare en effet une nouvelle télé-réalité d'un genre inédit, et il faut le dire que c'est bien rare, puisque là, on arrive un petit peu au bout. Intitulée Rival Survival, elle met en scène deux hommes qui doivent survivre sur une île du Pacifique. Alors jusque-là, rien de très original, vous me direz. Sauf que des tailles de taille, ces deux hommes sont deux sénateurs américains, le républicain Jeff Flake et le démocrate Martin Heinrich. Les deux hommes que tout oppose ont eu l'occasion de sympathiser au cours d'un débat marathon dont le Sénat américain a le secret. Ils ont réalisé que tous les deux, bien, ils étaient fans de pêche sous-marine. Ils ont imaginé de se mettre en scène et ni une ni deux, ni Discovery a sauté sur l'occasion. On les verra donc apprendre à allumer un feu sous la pluie, à construire un abri avec des feuilles de palmier, à pêcher leur repas dans un lagon et à revenir les lèvres gercées avec quelques kilos en moins et avec un peu de chance avec une cote de popularité largement remplumée.
Bon là, c'est peut-être moins embarrassant d'intervenir, Toby Hooper, sur cette histoire. Est-ce que ça vous...
Oh, I think it's great.
C'est génial.
Très bien. Déjà sûrement un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Où on commence.
Non, mais moi, ça m'amuse plus de voir les politiques faire ce genre de choses que de les entendre faire des discours, finalement. Ouais, donc, je suis assez effrayante de ce genre de programme. Ouais.
Vous aimez la télé-réalité ?
Bah, quand il y a des hommes politiques dedans, ouais, ça me tente pas mal.
Parfait.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Texas avec vous, Toby Hooper, réalisateur américain. Vous êtes de passage à Paris au lendemain de la clôture du Festival du film fantastique européen de Strasbourg et à quelques jours de la ressortie en salle, ça sera fin octobre, puis en DVD, ce sera fin novembre, de la version restaurée de votre film culte Massacre à la tronçonneuse de 1974. Alors on va bien sûr revenir sur l'histoire de ce film, longtemps inédit et interdit d'ailleurs dans de nombreux pays. À ce propos, est-ce que vous vous souvenez de la première présentation en France? C'était à Cannes en 1975. Toby Hooper.
Yes, yes, I do.
Je m'en souviens, oui.
Très bien. Ça va être facile.
Should I comment?
Sure, of course. Yeah. You're the guest.
Yeah, yeah, yes. I remember people, the audience being pressed against the glass, trying to get into the theater.
Les gens étaient tous comme des sardines. Pressé comme des sardines, tout le monde voulait rentrer dans la salle de projection.
And then the theater filled up.
Le cinéma s'est donc rempli petit à petit.
And then the manager of the theater and the box office attendant called me to come over.
Le responsable, le directeur et la personne qui s'occupait du guichet m'ont appelé.
Told me that someone had just called in a bomb threat.
Quelqu'un avait envoyé un appel anonyme disant qu'il y avait une bombe, une alerte à la bombe. Donc.
And so I got up on stage
and. Je suis monté sur scène.
And made the announcement because they had to clear the theater.
Qui ont fait cette annonce parce qu'évidemment il a fallu évacuer la salle.
And the police came and.
La police est arrivée.
And a couple of hours later they. They said there's
quelques heures se sont passées, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de bombe.
So everyone came back and watched the film.
Le public est revenu et on a pu procéder à la projection.
Il n'y a pas eu d'autres incidents?
No other incidents to mention, to report?
Oh, well, as people were being pressed against the glass, fights.
Si les gens se sont littéralement battus pour rentrer, s'il y avait des cris, des gens qui se tapaient les uns sur les autres, tout le monde voulait rentrer. Si, des petits incidents comme ça.
Alors, le titre original du film est The Texas Chainsaw Massacre. Très mal prononcé. La traduction française Massacre à la tronçonneuse a donc coupé la référence au Texas. Pour quelle raison c'était important pour vous de situer géographiquement ce film jusque dans son titre? En quoi c'était un film texan, Toby Hooper?
At that time, I lived in Texas.
À cette époque, je vivais au Texas.
And Texas is, I must say, they feel they're the center of the universe.
Il faut savoir que le Texas est un état un petit peu à part aux États-Unis. Les Texans se croient le centre du monde.
And I was on campus when Charles Whitman at University of Texas.
À l'université du Texas.
When Charles Whitman.
Lorsque Charles Whitman, ancien combattant du Vietnam.
And I heard.
A fait ce qu'il a fait.
Shooting, guns going off.
Donc, moi, j'ai entendu des coups de feu, personnellement. J'y étais.
A police officer came up to me.
Un policier est arrivé vers moi, s'est précipité vers moi.
To go into that building. Go into the building. That someone on the tower.
Ordonné d'entrer dans un bâtiment qui avait quelqu'un sur en haut d'un bâtiment qui tirait des coups de feu.
At first, I couldn't believe it. Because what I thought I was hearing,
j'avais du mal à le croire, à vrai dire.
Like two or three times a year,
parce que
they would celebrate on the mall.
Deux ou trois fois par an.
The Civil War, they would reenact it.
On faisait.
And shoot guns at one. Blanks.
On refaisait, on remettait en scène la guerre civile des États-Unis et donc on tirait des balles à blanc. Et quand j'ai entendu ces coups de feu, je me suis dit que c'était ça.
But the officer said, you know,
mais
go
le policier m'a expliqué que ce n'était pas le cas. Il m'a dit, entrez vite dans ce bâtiment.
And turned and started to run away from me, going someplace.
Et donc lui, il est reparti ailleurs.
He was hit and
ce policier a été touché.
You know, part of his head gone. I mean, he basically blew up and fell over.
Quand je dis qu'il a été frappé par une balle, sa tête a explosé et le pauvre homme est mort sur le coup.
Moi,
évidemment, pendant ce temps-là, j'étais en train de me précipiter dans le bâtiment, comme il me l'avait ordonné. Et par la fenêtre, j'ai assisté au massacre sur le campus. Et j'ai regardé en haut de l'immeuble où il y avait le tireur.
Et
il y avait des centaines de personnes qui tiraient en direction de cet immeuble. En fait, c'était une tour où il y avait une horloge et des cloches. Et on entendait les cloches sonner sous l'impact des balles.
So after a few hours or a couple of hours maybe, they broke in and
après deux heures environ, la police est entrée dans cette tour et puis a réussi à abattre Charles Whitman, le tueur.
But you know, this is Texas.
Mais encore une fois, c'est au Texas.
On a bien compris.
Il y a de la violence au Texas.
Massacre à la tronçonneuse raconte l'histoire de cinq étudiants post-épis qui traversent le Texas en van et suite à une panne de carburant, eh bien, ils vont être assassinés les uns après les autres par un monstre, Leatherface, dont le visage est recouvert d'une peau en cuir. C'est un film d'horreur, un genre que vous avez beaucoup travaillé par la suite. Or, je sais qu'au départ, vous vous destiniez à faire des comédies. Comment le film d'horreur s'est au final imposé en fait, dans votre parcours, Toby Hooper?
I took cinema very seriously. I mean, I loved French films, Italian films.
J'aime beaucoup les films français, le cinéma italien. J'ai vu beaucoup de films étrangers.
And my first 35mm short subject was a 10-minute comedy.
Mon premier court métrage en 35mm, c'était une comédie. Ça durait 10 minutes.
And then I made a film called Eggshells.
Puis j'ai fait Eggshells.
About hippies,
film qui porte sur les hippies,
subculture, and it's
et cette sous-culture.
But it only played at university, a few universities.
Mais ce film n'a été projeté que dans quelques universités, quelques villes universitaires aux États-Unis.
So there was no other job, you know. I was not offered something
Donc voilà,
else
c'est
to
ça
do.
Que je faisais. On m'a pas fait de proposition. Plus intéressante que cela.
I'd shot at least something in the neighborhood of 60 documentaries.
Mais il faut savoir que préalablement, avant Massacre à la tronçonneuse, j'avais réalisé une soixantaine de documentaires.
With always the intention of, in mind of becoming a feature director.
C'était évidemment de faire un long métrage, des longs métrages.
So I had equipment and I raise the money,
le matériel,
a small amount of money,
je l'avais, j'ai réussi à lever des fonds, pas des fonds énormes, mais suffisamment pour me lancer dans un tournage. Évidemment, mon budget ne me permettait pas de faire appel à de grandes vedettes.
So I selected to do
Par conséquent,
genre film.
J'ai décidé de me lancer dans un film de genre.
And that's the why of it was to
Donc pour répondre à votre question, je me suis lancé dans un long métrage, dans un film de genre, pour avoir la reconnaissance des gens de Hollywood.
To get another job.
Le but étant évidemment de pouvoir enchaîner les projets pour vivre du cinéma, gagner ma vie en faisant des films.
But I could not understand why a genre film had to be a bad film.
Mais je ne comprenais pas pourquoi film de genre était synonyme dans l'esprit des gens de mauvais film.
Mais you can still have complex characters.
Dans un film de genre, on peut avoir des personnages complexes, pourquoi pas?
Strange and ironically
on peut
true behavior.
Avoir des comportements véritables, authentiques, bien que étranges.
Particulièrement étrange, on va en parler tout de suite.
Oui, on a beaucoup parlé d'un tournage très particulier. Est-il vrai que vous hurliez tout le temps entre les prises, que vous renversiez, brisiez des objets pour créer une ambiance de violence propice justement à l'établissement d'une atmosphère particulière sur le plateau? Toby Hooper.
Oui, tout ce que vous dites est tout à fait vrai.
I would
Il fallait terroriser les acteurs.
So you wanted to terrify the actors?
I kept the actors always upset, but
j'ai emmené la vie dure.
I directed the hatred toward me.
Mais en fait, cette haine, je l'orientais sur moi. Je voulais provoquer une sorte de haine. Et évidemment, moi, je faisais tout pour que cette haine existe sur le plateau, mais je l'orientais vers moi. Je la dirigeais sur moi.
So I would separate them. Franklin. The character Franklin.
I'd ask him not to Franklin.
During the entire length
Par exemple,
of the film.
Je lui ai demandé de ne pas se baigner, de ne pas prendre de bain, de ne pas se laver donc, pendant tout le tournage. Donc vous imaginez bien qu'il a tiré les mouches à force. Il savait ce que c'était que ce personnage qu'il incarnait.
Récemment, vous avez vu le film, je crois, quand vous étiez plus jeune. Quelque chose particulièrement vous avez marqué à l'époque?
Non, ce qui me reste de ce film, c'est juste le sentiment de terreur et puis quelques images, quelques flashs. Mais j'ai jamais eu le courage en fait d'y retourner. Et même, je ne sais pas si je l'ai vu en entier. C'est-à-dire que je l'ai vu vraiment petite, comme ces choses interdites qui nous attirent. Donc j'ai quelques images qui sont des icônes en fait dans ma mémoire. Maintenant que je suis adulte, j'ai beaucoup trop conscience de la peur, je crois, pour le regarder à nouveau.
Alors, le film est aussi remarquable par le travail que vous avez mené sur le son, ambiance du tournage, plutôt du film, un montage de notre réalisateur Thomas Beau, qui a isolé et compilé quelques passages.
The film which you are about to see,
Kirk,
became a nightmare.
Benoît Hagan.
Alors il y a les cris, les bruits de la tronçonneuse.
Il y a des cris d'animaux aussi. Voilà.
Et puis il y a aussi une bande-son musicale assez étrange. Quels étaient les instruments que vous utilisiez et quel dispositif vous avez inventé pour créer cette musique qui, je crois, est une musique que vous avez composée, Toby Hooper.
Oui, tout ce que vous dites est vrai, encore une fois.
Broken instruments.
En fait, c'était des instruments cassés. Des instruments sur lesquels on avait marché, qu'on avait piétiné, tous les instruments, on les avait désaccordés exprès. Et je faisais des enregistrements et je le faisais en multipiste. Des plaques métalliques qu'on avait posées. À l'arrière d'une viole, et après donc on raclait les cordes pour avoir un bruit extraordinairement métallique. Et sinon j'avais un tube en carton qui devait faire à peu près un mètre de long, et j'avais un micro qui était placé à un bout, et à l'autre bout, j'avais un micro à proximité du haut-parleur. Et moi, je poussais une sorte de ululement, comme ça, dans le tube en carton. Et ça a créé une espèce de chœur assez étrange. Donc c'était un son totalement insensé. Et en fait, c'est des sons qui sont des sons de ma famille. Quand j'ai grandi, il y en avait ces sons-là.
Alors j'ai pu lire pour autant que deux chansons en particulier avaient influencé l'écriture du film. Il y avait celle-ci. Elton John, et puis il y avait celle-ci. De Lou Reed, en quoi ces chansons ont-elles pu influencer le film? J'avoue que le lien entre ce qu'on a pu voir dans le film et ces chansons me paraissent abstraits.
Excuse me. When the idea came to me, And it came very, very fast.
Lorsqu'il m'est venu cette idée, elle m'est venue très rapidement.
I got home, I sat down,
je suis rentré chez moi,
and listened to
je me suis installé et j'ai écouté Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John. Et les paroles de ce morceau sont un petit peu sombres tout de même, qui sont liées entre les lignes.
Lou Reed's it's very dark.
Quant au morceau de Lou Reed, lui, il est évidemment assez sombre dès le départ, sans même avoir à l'interpréter.
Alors, vous étiez fan de films d'horreur, vous teniez pour autant à faire un film assez différent quand vous êtes lancé dans ce projet Massacre à la tronçonneuse. Quel film d'horreur aviez-vous en tête justement au moment de vous lancer, contre peut-être quel type de film vous vouliez vous battre en faisant Massacre à la tronçonneuse?
Oh, I wanted to avoid doing Mothra.
Je ne voulais pas
Godzilla.
Ah, je ne voulais pas faire un film à la Godzilla.
Great mythology.
Bien que ce soit forcément un personnage mythologique, si on peut dire, extraordinaire.
To avoid doing, I was a teenage Frankenstein. Our teenage werewolf, as far as that goes.
Donc je ne voulais pas faire de loup-garou adolescent, de Frankenstein adolescent, choses comme ça.
The films that inspired me, John Frankenheimer's Seconds.
Et les films de John Frankenheimer m'ont pas mal inspiré.
Stanley Kubrick's A Clockwork Orange.
Une orange mécanique de Stanley Kubrick aussi. Voilà le genre de films qui m'ont pas mal inspiré.
Politiquement, vous vous situiez sur quel bord à l'époque, puisqu'on parle souvent de ce film comme étant une métaphore de la crise politique et économique que traversaient les États-Unis à cette époque-là, même comme un sorte de journal critique sur cette époque. Quel était votre bord politique, Toby Hooper?
I was a hippie.
Oui, j'étais un hippie, moi.
Je
participais à des manifestations, des défilés contre la guerre du Vietnam. Donc moi, je me suis reçu pas mal de gaz lacrymogène dans la tronche. Hein.
Still naïve, but then Watergate happened.
J'étais naïf, je suis encore. Puis est arrivé le scandale du Watergate et je me suis aperçu qu'on ne nous disait pas la vérité, bien qu'on puisse nous la dire de temps en temps, mais Watergate ça a mis en évidence le fait qu'on nous mentait.
So I was, you know, one of those kids.
Voilà, voilà le profil que j'avais. Un de ces gamins qui avait les cheveux très très longs. Je portais des sandales.
Active.
Et puis, encore une fois, j'étais assez actif, assez engagé politiquement.
Et aujourd'hui, politiquement, vous êtes de quel bord? Après toutes ces années?
Same place.
Bah, pareil.
Très bien, avec plein de cheveux aussi.
Le rendez-vous. Extérieur.
Extérieur.
Oui, extérieur, tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, vous avez rencontré Jean-Christophe Spadaccini, qui est maquilleur effets spéciaux.
Pour le cinéma, hein, donc ça va du vieillissement des acteurs aux créatures de l'espace ou effets spéciaux en tout genre, jusqu'à la bouse de vache dans Le Petit Quinquin de Bruno Dumont. Et donc lui et son atelier ont notamment travaillé sur La Cité des Enfants Perdus, sur le Lucie de Besson, actuellement à l'affiche. Et on l'attend bientôt dans The Search d'Azavanicius et dans la saison 2 des Revenants, la saison 5 d'Engrenage. Je l'ai rencontré vendredi à Fontenay-sous-Bois dans son atelier. Très spécial.
Questionnaire effets spéciaux Jean-Christophe Spadaccini, Manu Farine.
Le film qui a pu vous donner envie de faire ce métier?
Les Aventuriers de l'Arche Perdue, dans lequel on voyait des vilains nazis exploser et dans un pareil délire un peu comme ça, jouissif on va dire. Après le film de monstre un peu ultime comme ça, c'était The Thing, et puis j'en oublie plein parce que dans cette période il y a aussi les Star Wars, Legend de Ridley Scott. En se remémorant cette période, on peut s'apercevoir que sur une année, on avait 10 chefs-d'œuvre du cinéma fantastique quasiment qui sortaient en même temps. Les Evil Dead de Sam Raimi, enfin, c'était sans fin en fait. Maintenant, on est un peu plus formaté dans du super-héros à gogo.
Première expérience de maquillage?
Un court-métrage qui s'appelait « Pourquoi les Martiens sont-ils verts ?» de Caroline Vier. Ça ressemblait un petit peu à un épisode de La Quatrième Dimension, mais version Jacques Demy, c'est-à-dire c'était une comédie musicale.
Une figure qui a pu fonctionner comme modèle ou comme référence en maquillage effets spéciaux pour vous?
Les maquilleurs comme Dick Smith, qui est décédé il y a un mois à peu près, je crois, à 92 ans, qui était le maquilleur de Little Big Man, donc de Dustin Hoffman, très âgé, De Niro dans Taxi Driver. Quand il est rasé, c'est des faux crânes. Travail de ce grand monsieur qui, lui, en fait, a été quelqu'un, un modèle pour tous les autres maquilleurs américains, un peu plus jeunes aussi, parce qu'il a inventé beaucoup de techniques. Enfin, c'est des petites choses cuisine interne, mais qui ont vraiment changé les looks des maquillages. Vous voyez. On était même au niveau des matériaux. Il a vraiment inventé des peintures qui tiennent sur la peau et sur les matières plastiques qui collaient sur les gens.
Le film qui, pour vous, serait une leçon d'effets spéciaux.
Pour les monstres et les créatures, c'est vraiment le film emblématique. Pour moi, ça reste The Thing, parce que c'est la masse, la quantité, l'originalité. Et aussi Alien, parce que le travail de Giger a été absolument incroyable sur Alien. Ça faisait déjà des années qu'il travaillait sur ce genre de peinture biomécanique et il a intégré ça en live dans un film.
Ce qui a fondamentalement changé en presque 30 ans de pratique.
Pour nous, à l'intérieur de l'atelier, c'est les prothèses en silicone par rapport à la prothèse en mousse de latex avant. Ça, c'est des pures techniques, mais maintenant, on travaille avec des matériaux qui sont translucides, donc qui rendent un aspect de fausse peau qui est beaucoup plus beau à l'image. Et puis l'autre gros changement, c'est l'avènement du numérique. Plus pour du bien et très peu pour du mal, parce qu'on se retrouve toujours à travailler plus sur les films où il y a aussi beaucoup d'effets numériques, dans le sens où il faut créer un univers.
Le film qui vous aura le plus appris sur votre propre métier?
C'était La Cité des Enfants Perdus, de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Après, c'est toujours des digressions des mêmes techniques. On fait une sculpture, on la moule, on fait un noyau, c'est-à-dire une sorte de squelette à mécaniser. Qu'on fasse un crocodile, une créature de l'espace ou autre, c'est que le design qui change, mais les techniques sont semblables. On travaille avec les mêmes matériaux, de la résine, du silicone, des mousses diverses et variées, de la peinture, du poil s'il faut, voilà.
Le film que vous auriez aimé faire?
Alien Resurrection, juste parce que je connaissais le réalisateur et que c'était un tout petit peu rageant de se dire qu'il partait après avoir fait deux films avec Jeunet. Je suis passé le voir du coup, je suis passé le voir sur son tournage et il y a vraiment un monde entre eux et nous. Ici, on va travailler très artisanalement, 4, 5, maximum 10, 15 personnes peut-être dans un atelier, suivant la taille des projets. Et là-bas, quand je suis arrivé dans l'atelier, il y avait 80 personnes qui travaillaient juste dans l'équipe des aliens. Mais aux États-Unis, le cinéma, c'est la deuxième industrie du pays. Et ici, c'est une exception culturelle.
La créature que vous auriez aimé être?
Un genre de E.T., mais pas avec moins une sale gueule.
Jean-Christophe Spallaccini, merci.
Toby Hooper, je sais que vous signez vous-même les effets spéciaux. Est-ce que vous connaissiez Dick Smith? Est-ce que dans ce questionnaire, il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement marqué?
Well, I knew Dick Smith and always wanted to work with him.
Dick Smith, je le connaissais, j'ai toujours voulu travailler avec lui.
And after a fashion, I did have a chance.
Et l'occasion s'est présentée.
Salem's Lot. Dick Smith was working in the same department when Ken Russell was.
Lorsque Ken Russell était en train de.
I'm trying to think of the name.
Attends, comment ça s'appelle? Comment s'appelle ce film de Ken Russell?
Ah, plusieurs.
The psychedelic film.
Donc un film psychédélique de Ken Russell.
Plusieurs aussi.
C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'ils étaient tous psychédéliques, les films de Ken Russell. Bon, je cherche tout désespérément le titre de ce film. Bref.
But anyway, Dick Smith helped us.
Toujours
est-il
que Dick Smith nous a aidés sur le film Salem's Lot.
And then I've worked with Rick Baker.
Et puis j'ai travaillé aussi moi avec Rick Baker.
And Rick came up with a new material.
Rick Baker, lui, a inventé un nouveau matériau.
That would reflect light and make
matériau réfléchissant de la lumière. Et ça apportait plus de réalisme à la texture de la peau.
You can see some of these prosthetics that Rick has made.
Ces prothèses
that hold up in daylight.
Conçues par Rick, on les voit C'est du très beau travail. Et ça reflète très très bien la lumière. Bon, j'ai travaillé avec pas mal de gens comme ça, des gens assez géniaux. Moi, avant le CGI, moi j'aimais beaucoup quand on travaillait en optique. Parce qu'on était quand même dans le domaine du tangible, donc on travaillait avec les optiques. Aujourd'hui, le matériel que l'on utilise est évidemment bien plus pratique. On travaille sans fil. On a un matériel qui est très pratique pour différents tournages, bâtiments ou autres. Mais pour en revenir à la création de personnages, eh bien, on se rend bien compte si le personnage a de la présence ou pas. Alors évidemment, on peut améliorer la présence de ce personnage. Mais pour les paysages ou les choses comme ça, c'est un univers. Bon, maintenant, on travaille complètement différemment.
Le rendez-vous.
À chaque fois qu'on essaye de tuer l'ours, on essaye de tuer le père. On essaye de tuer notre part de sauvage. On essaye de tuer celui qui a kidnappé la vieille mère pour l'amener au fond des bois. On essaye de tuer Jean de l'ours. Mais Jean de l'ours, il est à nous, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise.
Plateau Fable avec vous, Joyce Ormond. Vous publiez aujourd'hui votre sixième livre. C'est un roman, La peau de l'ours, chez Gallimard. L'histoire et l'errance d'un petit homme sans avenir, d'une drôle de bête qui est le fruit d'un viol d'une femme par un ours. On vient d'ouvrir sur la voix du conteur ariégeois Olivier de Robert qui raconte la légende de Jean de l'ours, l'histoire donc du fils de l'ours et de la plus belle fille du village. Qu'est-ce qu'un tel conte a déclenché chez vous ? Est-ce que c'est le point de départ du roman ?
Le point de départ, enfin le premier désir qui a mis le roman sur les rails, c'était de travailler sur deux lieux, à savoir les zoos et les cirques, qui sont des lieux de cohabitation entre les hommes et les bêtes, qui me semblaient assez romanesques et assez intéressants à explorer. Et j'ai eu envie d'un personnage bestial pour comme poisson pilote dans ces deux univers. J'ai cherché longtemps un animal avec la difficulté qu'il y a de choisir comme héros un animal. C'est-à-dire, est-ce qu'on décide de le faire parler de manière complètement arbitraire comme un homme, ou est-ce qu'au contraire on invente une langue animale, mais là on bascule dans un autre projet qui est beaucoup plus de l'ordre de la performance littéraire, bon, plus poétique. Et je suis tombée en lisant l'ouvrage j'ai découvert en lisant l'ouvrage de Michel Pastoureau, l'historien Michel Pastoureau, qui s'appelle L'Ours, formidable livre, La légende de Jean de l'Ours. Donc cette légende issue du Moyen-Âge qui a beaucoup d'occurrences dans les Pyrénées, de ce côté-ci des Pyrénées, en tout cas en France. Et je me suis dit, mais là, je tiens mon héros, c'est-à-dire cet être hybride né de l'accouplement d'un ours et d'une paysanne. Et surtout, je tiens cette possibilité narrative d'enfermer. Ça, c'est pas ce que raconte la légende de Jean de l'Ours, mais c'est ce que j'en ai tiré comme outil romanesque, d'enfermer une conscience humaine dans un corps animal.
Farine. Alors
justement, Joyce Ormond, vous aviez écrit dans votre précédent roman Comme une bête, vous vous appuyiez sur une langue particulière, qui était une langue très technique aussi, qui était celle de la boucherie et du travail de la viande. Est-ce que vous avez dû malgré tout travailler une langue particulière pour entrer dans la peau de l'ours, même si effectivement il ne s'agit pas d'inventer une langue animale hein ?
Non, je pense que c'est un livre qui est moins documentaire que le précédent, même si je me suis quand même documentée, c'est-à-dire que j'ai fait des interviews avec des soigneurs dans des zoos, j'ai observé comment ils se comportaient avec les animaux, j'ai beaucoup lu sur l'histoire des zoos, des cirques, etc. Mais à partir du moment où je prenais le parti finalement du conte ou de la fable, et le livre commence presque sur le mode de « il était une fois les hommes et les ours », du coup ça induit, je pense, une langue beaucoup plus fantaisiste et peut-être beaucoup plus lyrique que dans mes autres livres. Une écriture de fable, comme chaque livre invente sa propre forme. Après, j'ai essayé de travailler sur quelque chose d'impossible, en fait. C'est le défi impossible du livre, chaque livre a le sien, qui était effectivement de faire parler mon personnage, même si c'est un monologue intérieur, comme un homme, puisqu'il est une conscience humaine enfermée dans ses poils et ses muscles, et en même temps de lui donner un accès au monde réel, au monde matériel, qui soit un accès qui passe par les sens de l'ours. Donc je me suis beaucoup renseignée sur la physiologie de l'ours, à savoir que l'ours a un odorat et une ouïe très développée, mais qu'il voit mal. Et donc j'ai essayé sans cesse de tenir cette conscience humaine et cette sensibilité animale, et que le récit qu'il nous fasse de la réalité passe par cette ouïe et cette vue hypertrophiée. Donc c'est moins un langage qu'un rapport au sens qui est en même temps impossible à tenir parce que je ne pourrais jamais me mettre vraiment dans la peau de l'ours et voir ce que voit l'ours. Mais disons que la folie de la littérature m'a permis de m'en approcher un petit peu. Quoi. J'ai essayé.
Il y a vraiment un lien entre les deux romans, entre Comme une bête et puis ici... dans la peau de l'ours. Dans Comme une bête, vous interrompiez le récit par une fable qui racontait le procès d'un cochon tueur d'enfants. Et en fin de roman, se déroulait une scène hallucinée de libération bouchère avec recours au mythe de Noé. Et cette fois, eh bien, l'arche de Noé revient, mais elle traverse d'ailleurs tout le roman, mais une arche effondrée, le cul par-dessus tête. Qu'est-ce que cette imagerie transporte pour vous et qu'est-ce qu'elle vous permet pour qu'elle revienne comme ça ? Dans les deux romans.
Alors, c'est vrai que dans le roman précédent, Comme une bête, j'avais déjà esquissé pas tant la question des rapports entre les hommes et les animaux que la question stylistique et littéraire de l'animal comme personnage, puisque mon boucher Pim à un moment a une relation très singulière avec une vache. C'est presque un amour platonique. Et en fait, je me suis dit, mais les animaux sont des personnages romanesques formidables et j'ai eu envie de pousser plus loin cette expérience-là, de la pousser de manière radicale. Promis, après, j'arrête avec les bêtes. J'arrête d'écrire des romans avec des bêtes.
Ça pourrait être une trilogie.
Je pense que je resterai au diptyque. Mais je trouvais que c'est pas tant pour dire quelque chose, c'est plutôt pour explorer ce que ça permet littérairement. C'est-à-dire la liberté que ça permet à partir du moment où vous faites parler les bêtes et vous décidez que les bêtes seront vos héros, tout est permis. C'est-à-dire qu'on s'affranchit d'un certain réalisme, même si j'ai voulu que le zoo et le cirque soient des endroits qui existaient et qui ne sont pas juste le fruit de mon imagination. Voilà, on s'affranchit quand même des obligations du réalisme. Et c'est plus pour ces raisons-là que je file effectivement cette image des bêtes, de l'arche de Noé, parce qu'ils permettent des situations romanesques que je trouve extrêmement stimulantes, poétiques, burlesques, mélancoliques. Et c'est d'abord vraiment un kiff d'écriture avant toute chose.
Alors, je vais rebondir sur l'idée du zoo et du cirque, parce que vous avez amené un son. On vous a demandé, donc, comme à chaque invité depuis le début de la saison, et voici ce que vous avez apporté, Joyce Ormond. Identification du son, Jess Ormond.
Et donc on entend le nain Hans avec sa petite voix d'enfant et l'écuyère dont il est amoureux et qui en fait se paye sa tête voilà pendant tout le film. Le film Freaks de Todd Browning qui a été un peu la matrice de toute la partie du livre qui se passe au cirque puisque l'ours donc mon ours passe de main en main et est vendu à un montreur d'ours, un entrepreneur en combat d'animaux, puis un cirque, puis un zoo, etc. Et donc le cirque qui m'a inspiré c'est le cirque de Todd Browning, c'est le cirque Barnum aussi, c'est quand même l'invention de la société du spectacle et du divertissement aux États-Unis. Et puis c'était aussi pour moi l'occasion par le motif bestial de traiter du monstre et que mon ours étant un hybride un monstre, je voulais lui permettre de rejoindre les paradis des freaks qu'est ce zoo.
Anne Farine.
Récemment, justement, votre ours monstre passe, vous l'avez dit, de lieu en lieu, de propriétaire en propriétaire, il est malmené, il est incompris, sauf, du moins croit-on, des femmes, celles qu'il va rencontrer notamment au cirque, celles qu'il rencontre à la toute fin au zoo, on ne va pas dévoiler la fin. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette alliance des ours et des femmes ?
Alors, je pense que je l'expliquerai, enfin, disons que je l'illustrerai de deux façons. D'abord, dans la légende de Jean de l'Ours, enfin dans les légendes moyenâgeuses autour de l'ours, on raconte que l'ours était un prédateur sexuel redoutable, qu'il était le seul animal à copuler en position du missionnaire, qu'il était le concurrent direct, le concurrent sexuel et érotique direct des hommes. Et quand le montreur d'ours passait dans les villages, les hommes enfermaient leurs filles, leurs sœurs, leurs épouses, parce qu'on racontait qu'elles étaient irrésistiblement attirées par l'ours. Donc j'aimais bien cette idée d'une alliance ancestrale et clandestine entre deux réprouvés, finalement, la femme et la bête, avec cette idée que l'homme aurait peur de se faire détrôner par cette espèce d'incarnation de l'amour. L'autre ligne, c'est qu'à partir de cette découverte, de cette légende, j'ai eu envie, peut-être penchant féministe qui reviennent par la bande, j'ai eu envie de donner une place particulière du coup aux femmes dans ce livre et de dire voilà, cet être mystérieux, cet être singulier, cette espèce de transe qui refuse de se fixer sur une identité, il n'est perçu, il n'est compris que par les femmes qui savent regarder au-delà de sa pure apparence, tandis que les hommes sont dans un rapport de pure soumission, enfin soumettre la bête ou de pur mimétisme, ils prennent l'animal comme leur miroir, ils se regardent dans l'animal et alors que les femmes aiment son mystère, aiment l'étrangeté et ne cherchent pas à se reconnaître et ça me plaisait de leur donner cette place un peu supérieure.
Alors, la relation animal-humain est un motif qui revient actuellement chez plusieurs artistes. Je pense par exemple aux Métamorphoses de Christophe Honoré, à Bird People de Pascal Ferrand, même Christine Angot qui finissait par exemple La Petite Foule sur le champ d'un oiseau. Je pense aussi l'année dernière au plasticien Abraham Poincheval qui s'était glissé littéralement dans la peau d'un ours pour hiberner pendant quelques semaines au musée de la chasse à Paris. Comment vous comprenez cette conjonction aujourd'hui ? Dont vous faites partie d'ailleurs, Joyce Hormand.
Oui, alors Abraham Poincheval, quand j'ai découvert sa performance, je suis allée au musée de la chasse lui lire des extraits du livre qui n'était pas encore paru. Et j'y suis retournée plusieurs fois. Je câlinais l'ours. Enfin, ça m'a fait un choc en fait, de me rendre compte que la même histoire se passait sous une autre forme pour lui. Alors, moi, si vous voulez, j'ai toujours l'impression que quand j'écris un livre, que finalement tout le monde s'empare du sujet. C'est-à-dire que quand j'écrivais sur la boucherie, j'avais l'impression que c'était un sujet extrêmement à la mode. Il y avait Marcela Yacoub qui sortait son livre Confession d'une mangeuse de viande. Il y avait beaucoup de choses autour des végétariens. Enfin, donc, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est plutôt une vue de l'esprit et que l'obsession de mon sujet fait que j'ai le sentiment que beaucoup d'artistes s'en emparent. Après, je ne sais pas s'il y a un mouvement particulier, mais il me semble que le rapport homme-bête est un rapport inspirant depuis toujours, depuis la fable, et que effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'ailleurs, par exemple, chez Christine Angot, qui est l'incarnation de l'autofiction en France, de ce genre qui est apparu il y a une vingtaine d'années et qui a été très décisif, c'est marrant de voir qu'il y a un retour finalement à des formes beaucoup plus archaïques de l'écriture, la fable ou le conte, et effectivement on ose à nouveau peut-être faire parler des animaux, les mettre en scène comme un retour de l'archaïque dans l'hypermodernité, mais je ne saurais pas plus l'analyser que ça.
Elle dit
enfermer une conscience humaine dans un corps animal.
Il dit
This is Texas.
Merci à nos invités. Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse, ressortira en salle le 29 octobre. Et le 29 novembre, ça sera en DVD Blu-ray chez Carlotta TF1 Vidéo. Joyce Hormand, La peau de l'ours est publiée aux éditions Gallimard. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Encore une histoire de peau demain avec la chanteuse Camélia Jordana, à ses côtés le metteur en scène Marc Lenné. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard en partenariat avec Anou Paris, une émission préparée par Benoît Lagane, Manou Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture Zoé Sfez, à la technique Clément Bergman, à la réalisation Thomas Beau et à la traduction Xavier Combes. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il n'a rien d'animal, Hippolyte, je peux vous l'assurer. C'est plutôt robotique et compagnie. Il est 19h52, 53. Vous écoutez France Culture, c'est bien ? Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.